Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, même heure partout au Mali. Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. 149 personnalités maliennes viennent d'être sanctionnées par la CEDEAO. Parmi elles, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la quasi-totalité de son gouvernement et les membres du CNT. La 50e édition du pèlerinage catholique national aura lieu à Kita les 20 et 21 novembre 2021. Selon la paroisse, des prières seront faites pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. La libération de l'artiste Amadou Kébé Diderkeb et son staff nourrit-elle l'espoir d'une libération prochaine des autres otages retenus au Mali? En tout cas, les autorités de la transition ont réaffirmé leur volonté à obtenir leur libération. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Gagné Kanté assure la technique. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de sanctionner 149 personnalités maliennes, dont le Premier ministre. Dans un communiqué publié hier soir, la CEDEAO a annoncé une sanction contre Choguel Kokala Maïga et la quasi-totalité de son gouvernement, ainsi que tous les membres du Conseil national de transition CNT. Mais le président de la transition, le colonel Hassimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne figurent pas sur la liste. Ces 149 personnalités sont interdites de voyager et de gel d'avoir financier. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La ville de Kita prépare la 50e édition du pèlerinage catholique national. L'événement est prévu pour les 20 et 21 novembre 2021. Il est placé sous le signe de la fraternité. Le thème de cette année est « Avec Marie, tous unis pour un Mali fraternaire dans sa dimension ». Hier, le gouverneur de la région et le curé de la paroisse de Kita ont visité les sites et les hôtels devant abriter les pèlerins et constaté de visu les derniers réglages. Les détails avec Idrissa Sako.
Chaque année, les chrétiens catholiques du Mali se retrouvent à Kita au pied de Notre-Dame du Mali le 20 novembre, date anniversaire de l'évangélisation du Mali. Plus de 7000 pèlerins sont attendus cette année dans la capitale de l'Arachide. Depuis lundi, 203 jeunes, dont des femmes, ont quitté Kati pour implorer Dieu. Ces marcheurs, dont le nombre ne cesse de croître chaque année, doivent arriver à Kita le jeudi dans la matinée. Selon la commission d'organisation, toutes les dispositions sont prise pour le bon déroulement du culte. Hier, le gouverneur, accompagné de ses collaborateurs, les autorités politiques et des membres de la paroisse de Kita ont visité les sites et les hôtels devant abriter les pèlerins. Le chef de l'exécutif régional et sa suite se sont rendus ensuite sur la colline mariale pour constater de visu les dispositions prises. Côté sécurité, un dispositif impressionnant est mis en place. Les forces de l'ordre et les éléments de la protection civile sont déjà déployés. L'effervescence et l'engouement chez les habitants de Kita sont au paroxysme. Des stands colorés sont installés partout pour attirer les clients. Ce 50e pèlerinage mettra l'accent sur la crise sécuritaire et ses conséquences sur le tissu social aujourd'hui en lambeaux.
Selon le curé de la paroisse de Kita, la marche du pèlerinage de l'église catholique de Kati à Kita sur une distance de plus de 180 km est une gloire rendue au Seigneur pour avoir exaucé les prières et le vœu du pèlerinage précédent. Selon lui, de nombreuses prières seront faites pour rendre grâce à la gloire et de Dieu et solliciter le retour de la paix et de la cohésion sociale. Georges Roland Débé, curé de la paroisse de Kita, nous donne plus de détails sur le programme du pèlerinage au micro de notre correspondant sur place, Fodé Moussa Diakité.
Les marcheurs font 4 jours de marche, donc de Kati pour arriver ici, donc le jeudi matin à 9h. Le vendredi de 17h à 21h est prévu l'arrivée des délégations qui ne sont pas à Bamako. Ce même soir-là, de 21h à 22h, donc aura lieu une veillée mariale ici. Le samedi, c'est le 20 novembre, on peut dire que c'est le jour même du pèlerinage. Ce cinquantenaire rassemblera du monde. Nous attendons à peu près 7000 pèlerins qui viendront de tout le Mali. Nous attendons aussi une grande délégation de la France. Nous vivons ce pèlerinage dans un contexte sanitaire et, je dirais, sécuritaire. Nous demanderons à tous les pèlerins, tous ceux qui veulent avoir accès à l'aire du pèlerinage, de se munir d'un badge, parce que la sécurité sera serrée, vigilance est de mise pour aider ces agents de sécurité.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Après la libération de l'artiste Amadou Kébé Diderkeb et son compagnon, y a-t-il encore de l'espoir pour la libération des autres otages retenus au Mali? Ils sont plusieurs personnes encore introuvables au centre et au nord du pays. Les autorités maliennes réaffirment leur volonté à obtenir la libération de toutes les personnes retenues en otage sur le territoire malien. Les détails avec Sekou Gadigo.
Les journalistes Amadou Nialibouli, Moussa Diko et Olivier Dubois sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Ils ont été enlevés respectivement en 2020 et 2021. Sont également retenus en otage le sous-préfet de Farako, Ali Cissé, et le préfet de Gourmararos, Drissa Sanogo. Les deux administrateurs civils ont été capturés en 2019 et 2020. Ils n'ont toujours pas été libérés malgré les nombreuses manifestations et mouvements de grève du syndicat des administrateurs civils. Libre depuis ce lundi, l'artiste Derkeb a passé plus de 3 mois aux mains des groupes armés terroristes. Le jeune rappeur et 2 autres membres de son équipe avaient été enlevés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à Gourmararos dans la région de Tombouctou pour un spectacle en faveur de la paix. Sa libération a été un soulagement pour sa famille, ses fans et le monde de la culture. Quelques semaines auparavant, la sœur colombienne Gloria Cecilia Narvaez a été elle aussi libérée après plus de 4 années de captivité.
Autre sujet, depuis quelques semaines, les étudiants de l'Institut universitaire de gestion ne vont plus à l'école à cause de la grève du corps professoral. Les étudiants se plaignent de la violation de leurs droits à l'éducation et appellent les autorités scolaires à prendre les mesures idoines. Au même moment, les négociations se poursuivent entre l'administration et les enseignants pour trouver un consensus. En attendant, les étudiants expriment leur colère. Suivant quelques réactions d'étudiants de l'UIG au micro de Kwandiara.
Nous sommes ici depuis 2018, nous aurions dû terminer cette année même, mais nous n'avons toujours pas commencé avec la 3e année. On nous a demandé de laisser tous les travaux de la maison, uniquement nous concentrer sur nos études. Et les études aussi, on n'arrive pas à faire ça, à cause de grève.
Bon, l'impact, elle est trop large pour nous, parce que nous sommes des promotions 18. Bon, si tout était dans le normes, nous devons sortir en 2020. Mais dû aux grèves des enseignants, ça nous a mis en retard.
Nous demandons aux anciens, vraiment, c'est vrai qu'ils demandent également leurs droits, parce que chez les chefs de famille, c'est extrêmement difficile, mais qu'ils regardent également nous aussi, qui sont ses jeunes frères et ses enfants également. Nous subissons gros aussi, parce qu'également nous, il y a notre avenir également qui est en jeu.
On travaille un mois, plus de 3 mois, on reste à la maison, on n'est rien faire. Vraiment, c'est assez gênant. Les parents vont penser qu'on est en train de les manipuler.
Les dates des assises nationales de la Refondation sont fixées du 22 novembre au 26 décembre 2021. L'annonce a été faite mardi par le ministère de la Refondation de l'État au cours d'une rencontre. La classe politique reste divisée sur l'opportunité de ces assises. Pour certains partis politiques, elles sont la seule voie pour refonder le Mali, alors que d'autres estiment qu'elles ne visent qu'à prolonger la durée de la transition. Plus de précisions avec Aïssata Diarra.
Au ministère de la Refondation de l'État, on affirme que ces assises vont permettre de résoudre les maux du Mali et restaurer les valeurs ancestrales et culturelles. Oumar Kone, représentant du ministère de la Refondation de l'État.
Les assises là sont capitales, si j'ose dire, pour le Mali. Ça permettra de repenser le Mali. Les dates sont fixées. Donc, au niveau local, donc quand je dis local, c'est la commune, le cercle. Ça devrait commencer normalement le 22 novembre de ce mois. Et au niveau national, c'est à partir du 20 décembre.
Plusieurs partis annoncent leur non-participation à ces discussions. Parmi eux, le Parti social-démocrate africain PSDA. Son président Ismaël Sako qualifie ces assises d'inutile.
Les assises de Refondation sont encore une fois de plus une poudre aux yeux des Maliens parce que nous pouvons faire l'économie des moyens, l'économie du temps en prenant l'ensemble des résolutions des différents forats des 10 dernières années, faire une synthèse et traiter les plaies du Mali.
Pour le M5RFP, soutien des autorités de la transition, c'est l'avenir du pays qui sera discuté au cours de ces assises. Jamil Bitar, porte-parole du M5RFP.
C'est des dates qui sont tenables, c'est la volonté de tout un chacun. L'ensemble des populations, des acteurs qui vont participer doivent se concerter en amont et venir avec des propositions concrètes pour la refondation du pays.
Selon le Premier ministre, c'est à l'issue de ces assises qu'un calendrier électoral sera élaboré.
Sur un tout autre chapitre, l'occupation des parterres devient de plus en plus un véritable casse-tête pour les usagers de la route à Bamako. Garnis de fleurs, d'herbes ou d'arbustes, ces espaces étaient initialement réservés pour l'élargissement des routes. Certains habitants de la capitale regrettent sa transformation de nos jours en lieu de détente, en garage et en dépôt d'ordures. Les détails avec Ousmane Nialibouli.
Les parterres ont des avantages mais aussi des inconvénients, estiment les habitants de la capitale. Ceux-ci regrettent la transformation de ces espaces espace anti-pots d'ordures.
C'est dû non seulement à l'incivisme, mais aussi. Bon, nous pensons qu'on peut essayer d'aménager un tout petit peu le terre-plein là, par exemple en y plantant des arbres. Cela pourra peut-être dissuader les propriétaires de camions venir garer leurs camions sur l'espace là. Et nous pensons aussi que ça peut servir de lieu de détente pour les riverains.
Pourtant, les urbanistes indiquent que l'agrandissement de ces parterres a pour objectif d'éviter l'installation des habitations sur les voies publiques. Djara Sissoko, architecte urbaniste.
La dimension des terre-pleins centrales, ça dépend non seulement de la largeur de la voie, mais aussi des possibilités que nous avons pour aménager la voie. Donc si nous avons une voie qui est très grande et nous n'avons pas beaucoup d'argent pour faire le goudron, on est obligé de faire un terre-plein central quand même qui est assez conséquent en attendant peut-être un jour d'avoir de l'argent pour agrandir le goudron. Et si on ne diminue pas les marges par rapport aux maisons, les gens ont tendance à s'installer par rapport sur ce que nous allons laisser avant les maisons.
En attendant une solution à cette situation, ces terre-pleins continuent d'être antiquement occupés par des habitations, des fortunes, des étalages ou des graines de personnes de même âge. D'autres ont été carrément transformés en garages de véhicules ou des espaces de détente.
Faisons à présent le point de la COVID-19 au Mali. À la date du mercredi 17 novembre 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 42 nouveaux cas, 58 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 16 758 cas positifs, 14 945 guéris et 589 décès. Place maintenant à la rubrique Actu COVID présentée par Aïssata Diarra.
Un nouveau-né peut-il être vacciné contre le coronavirus? C'est une des questions adressées aux spécialistes de la santé par des habitants de Ségou dans ce numéro d'ActuCovid. Dr Issa Benzancourt, médecin-chef au CCRF de Ségou, répond aux questions du jour.
Bonjour docteur, est-ce que le vaccin anti-Covid peut jouer sur la virilité d'un homme?
Vraiment, nous n'avons pas d'informations scientifiques à propos de cela. Concernant la coronavirus, comme vous le savez, il y a beaucoup de recherches en cours par rapport à l'amélioration même des vaccins qui sont utilisés actuellement. C'est une nouvelle maladie, c'est une pandémie. Les recherches peuvent prendre 5 ans, 10 ans pour qu'on maîtrise parfaitement. Pour chaque jour et chaque mois que Dieu fait, il y a les scientifiques là qui font de nouvelles découvertes par rapport à la corona. Que ce soit les signes de transmission, que ce soit la méthode de prévention. Donc, les recherches sont en cours dans tous les domaines, que ce soit sur le plan clinique, que ce soit sur le plan recherche du vaccin, que ce soit sur le plan comportemental.
Bonjour, docteur. Un nouveau-né peut-il être vacciné contre le coronavirus?
Ok, madame, au jour d'aujourd'hui, selon nos informations et les recherches en cours, un nouveau-né ne peut pas être vacciné contre le coronavirus.
Bonjour docteur, est-ce que le vaccin anti-Covid peut provoquer d'autres maladies?
Pas à ma connaissance, mais comme vous le savez, comme tout vaccin, il y a des effets secondaires primaires à titre de douleur là, aussi des choses d'injection, les petites fièvres, les petites courbatures, vraiment ça peut provoquer ça. Et puis il est recommandé quand même là pour ne pas vraiment faire le vaccin du coronavirus avec d'autres vaccins en même temps. Il est toujours recommandé là d'observer un temps, généralement c'est de 2 à 3 semaines avant de faire un autre vaccin.
Bonjour docteur, porter les mêmes chaussures avec une personne atteinte de la COVID peut être une source de contamination.
Les seules voies de contamination vraiment les plus probantes là, ça c'est la voie aérienne. La bouche, le nez, c'est-à-dire en éternuant ou bien en toussant, même en parlant. C'est pour qu'elle est recommandée de garder au moins 1 mètre de distance entre nous et de porter le masque. Et aussi si jamais on veut toucher alors qu'on ne porte pas le masque là, de tousser dans les plis du cou.
Merci docteur Benzancourt pour ces éclaircissements. Merci également aux auditeurs pour votre fidélité. Respectons les mesures barrières pour nous protéger du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Une actualité régionale, environ une quarantaine de participants venus de Kai, Kenyeba, Bafoulabe, Diema, Yelimani et Nioro du Sahel suivent depuis lundi une formation sur la protection de l'enfant. Cette session de 5 jours se tient à Kai. Elle entre dans le cadre du projet Autonomiser les adolescentes au Mali par l'éducation. L'objectif est de renforcer les capacités des participants sur l'accompagnement psychosocial des enfants. La formation est organisée par Educo en partenariat avec Fandima et financée par NORAD à travers l'UNICEF. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans quelques minutes. Ce sera la version Babara de cette édition, une présentation de Aïssata Diarra. Mais avant tout de suite, la question A.